Bonjour, alors je suis Catherine Quillier, je suis enseignant-chercheur en physique. Alors enseignant-chercheur, ça veut dire qu'il y a deux aspects à mon boulot. D'une part, je me retrouve régulièrement devant des étudiants pour leur faire des cours, ou des TD, ou des TP, et ça se passe sur le campus, à Grenoble. Et puis, l'aspect chercheur, ça se passe dans un laboratoire, et mon laboratoire, c'est le laboratoire interdisciplinaire de physique, qui est sur le campus également, juste à côté de l'arrêt Gabriel Fauré. L'objet de mes recherches, c'est un ballon de plage troué, parce qu'un ballon de plage pas troué, il est rond, donc c'est pas très intéressant. Il commence à se passer quelque chose d'intéressant qu'à partir du moment où on permet à l'air de sortir, et du coup, il faut trouver le ballon. Pourquoi je m'intéresse à ça? Il y a pas mal d'années, je me suis retrouvé avec je faisais de la physico-chimie en suspension, et je voyais dans mon microscope des petits objets qui me semblaient bien ressembler à des ballons de plage qu'on aurait troués, qu'on aurait dégonflés. J'ai commencé à m'intéresser à la forme que prend un ballon de plage dégonflé, et de manière surprenante, personne s'y était intéressé avant. J'ai fait ça essentiellement via des simulations numériques, c'est pour ça que je travaille surtout sur ordinateur. Bon, quand je dis que je travaille sur des ballons de plage dégonflés, les gens font toujours une drôle de tête, c'est pas tout à fait vrai en fait, puisque ces derniers temps, j'applique ce que j'ai appris de la mécanique des ballons de plage dégonflés, je l'applique à d'autres objets, comme par exemple des embryons en plein développement, ou quoi d'autre, des formes de végétaux. Des feuilles un peu particulières. Pendant un moment, avec un collègue, on travaillait sur des pièges aquatiques qui étaient faits par des plantes carnivores, qui permettent d'observer des mouvements extrêmement rapides, la milliseconde, donc les mouvements les plus rapides qui soient, dans l'eau. Voilà, alors il y a des applications possibles. Donc en gros, je cherche tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un ballon et auquel je puisse apporter mes lumières, on va dire. Quand on me demande sur quoi je travaille, c'est toujours très compliqué. Bon, c'est facile. L'objet sur lequel je travaille, il est facile à comprendre. C'est un ballon de plage qui est dégonflé. Mais je vois toujours la surprise et la déception dans les yeux des gens. Genre, ah bon, c'est à ça que t'es payé. C'est à ça que passe l'argent de l'État français à regarder la forme d'un ballon de plage. Donc après, je suis obligé d'expliquer pendant un certain temps quelles sont les applications possibles, comment. Donc une des applications possibles, celle sur laquelle j'ai le plus travaillé ces derniers temps, c'est qu'avec ce qu'on a appris sur les ballons dégonflés, on peut concevoir des objets qui se déplaceraient par exemple dans un organisme et qui seraient propulsés uniquement via des ondes échographiques. Mais là, c'est un raccourci extrême que je fais, et dès que je commence à expliquer dans le détail le lien entre ces deux choses, donc le lien entre un ballon de plage dégonflé et un sous-marin qu'on pourrait piloter à distance, ça devient très très vite très long et très chiant. C'est tout le problème de la science. C'est deux métiers différents en fait. Enfin, ça devrait faire partie du boulot, mais le fait qu'un chercheur soit un bon chercheur n'a rien à voir avec le fait qu'il puisse vulgariser facilement ce qu'il fait. C'est très bien qu'il y ait quelques chercheurs qui passent hyper bien dans les médias et qui donnent envie de faire de la recherche, etc. Mais quelque part, je prends un peu toujours ça comme une imposture, parce que forcément, on est obligé de tellement simplifier qu'on va finir par raconter des choses qui sont pas tout à fait exactes. Puis si on veut se diversifier, il faut qu'on parle d'autres choses que ce sur quoi on fait de la recherche. Et en fait, il y a des gens qui deviennent des vulgarisateurs professionnels. C'est très bien. Mais à la limite, c'est plus des scientifiques. Enfin, c'est plus des chercheurs, en tout cas. Quelqu'un qui est tout du savant génial qui vient parler dans les médias. De toute façon, rien que le fait qu'il soit en train de parler dans les médias, c'est qu'il est pas en train de faire de la recherche dans son labo. Donc, oui, ça va forcément avancer moins vite. J'adorerais être une bonne vulgarisatrice et que dès que je me mets à parler de science, que ça fasse briller les yeux. Oui, il y a un côté chaud en plus qui est agréable. Ça me pèse pas de pas le faire parce que j'ai choisi de pas le faire en fait. Mais c'est compliqué. C'est le problème de ce boulot, c'est qu'il y a plein de facettes et on peut pas tout faire correctement. Donc il y a des choix à faire. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à devenir chercheuse? Alors, évidemment, il y a plusieurs facteurs. Je pourrais répondre comme Édouard Baer dans Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Essentiellement, des rencontres. Il y avait un ami de mes parents avec qui on faisait de la montagne qui était chercheur. Il était astrophysicien. Il nous racontait des trucs complètement géniaux. Donc, je voulais absolument devenir astrophysicienne. Au passage, j'ai laissé tomber un peu le côté astro. Mais ça tombe bien. Parce qu'un astrophysicien, il se retrouve à étudier des objets qui sont très très loin de lui. Et moi, j'aime bien toucher, j'aime bien avoir à portée. Donc, je suis physicienne tout court et ça me suffit largement puisque les objets sur lesquels je travaille sont assez accessibles. Par exemple, les ballons de plage. Donc il y a eu des personnes, oui, qui m'ont fait rêver avec la science et qui font que j'ai eu envie de faire des études scientifiques et devenir chercheur. Bon, après, quand je suis devenue chercheur, je pense que ça m'a manqué un petit peu, effectivement, de ne pas avoir de mentor. C'est-à-dire, je me souviens d'une période particulière où on envisageait de partir en postdoc avec mon faisant fonction de mari. Donc je parle de postdoc, j'avais déjà un poste, mais bon, disons que c'était pas très longtemps avec ma thèse, après ma thèse, et je venais d'arriver à Grenoble, j'étais au labo à Grenoble. On avait trouvé un point de chute, on était presque prêt à partir 6 mois plus tard, et je me suis dit non, je peux pas faire ça, parce que je viens d'arriver dans un labo et je peux pas partir tout de suite pour un an ou deux, alors que j'ai pas encore publié, j'ai pas encore eu des super résultats. Et ça, c'était, je pense que c'est une des plus grosses conneries de ma vie. Et là, j'ai vraiment manqué de quelqu'un qui me dise à ce moment-là, mais pars, c'est ce qui peut arriver de mieux pour un chercheur. Tu pars, t'en as rien à faire de pas avoir publié. Et dans 10 ans, on se souviendra pas que t'as passé 6 mois au labo ou un an ou deux avant de partir. On se souviendra de ce que t'as fait en postdoc et de ce que t'as fait quand t'es revenu. Du coup, je suis partie 10 ans plus tard. Mais peut-être c'était 10 ans trop tard, en fait. Enfin, c'était très bien de partir à ce moment-là, mais j'aurais pu partir aussi 10 ans plus tôt. Du coup, ben, dès que je peux, j'essaye de décomplexer les gens qui pourraient, peut-être que c'était une attitude un peu typiquement féminine, finalement, ce que j'ai fait à ce moment-là, en sens que il y a beaucoup de filles. Enfin, le point commun que je trouve aux collègues féminines, c'est quelque part, on a un peu peur de gêner, de déranger, de pas faire les choses qu'il faut. Peut-être qu'on a un peu trop de surmoi. Donc, quand il y en a qui se posent ce genre de questions, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais pas plutôt, j'essaye de les pousser au maximum à faire ce qui est bien pour elles. Et pas à faire ce qui peut-être serait mieux pour les autres. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller dans un laboratoire à l'étranger, pas en tant que jeune postdoc juste après ma thèse, comme c'est souvent le cas, mais nettement plus tard, donc ça devait être une quinzaine d'années après ma thèse, j'ai passé un an en tant que, bon, un statut un peu, en tant que professeur invité aux Pays-Bas. Alors, c'était un petit peu compliqué à organiser parce qu'à cette époque-là, on avait déjà 4 enfants, donc bon, voilà, il a fallu déménager toute la petite famille aux Pays-Bas, mais l'expérience était complètement géniale. Déjà, pendant un an, on cesse d'être responsable vu qu'on est délocalisé, donc on n'a pas d'étudiants, on n'a pas d'enseignement à faire, on n'a pas besoin de se préoccuper de la bonne marche du labo, de l'équipe, de ceci, de cela, de chercher des sous pour travailler. Donc, j'ai fait que de la science pendant un an et c'était très agréable. Puis bon, bah, ça a permis de découvrir une autre manière de fonctionner. Les Néerlandais sont des gens sympas, très directs. Alors ça peut décontenancer un petit peu au début, mais en fait c'est assez pratique. Comme je suis justement très premier degré, finalement ça rend les choses très simples. Et puis oui, le fait de pouvoir se consacrer uniquement à la recherche pendant un an, ça c'est génial. Et puis ça m'a fait un peu rebondir thématiquement. Et maintenant, ce que je fais en ce moment, ça découle directement de ce que j'ai initié cette année-là. Et pourtant, c'était il y a 14 ans, 13-14 ans. Le fait d'être une femme scientifique à l'étranger, c'est un peu difficile à dire. Parce que je me suis jamais... C'est pas très à la mode ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de ne jamais avoir eu de problèmes liés au fait que j'étais une femme en science, de problèmes directs, externes, on va dire. Alors après, bon, je vais peut-être me faire taper dessus, mais le problème, il est plus peut-être interne. C'est-à-dire, j'ai jamais ressenti, personne m'a jamais dit tu dis ça parce que t'es une femme, ou tu fais ça parce que t'es une femme, ou on va pas te pousser parce que t'es une femme. On m'a pas spécialement poussé, mais j'ai vu des filles être poussées, comme des garçons ne pas être poussés. Donc, ce que j'appelle poussé, c'est le côté un peu mentorat, quelqu'un qui est un chercheur un peu plus confirmé, qui va te prendre sous son aile, qui va te dire mais si, va à ce congrès, va là, fais ci, fais ça, c'est bon pour ta carrière. Bon, ça m'est pas trop arrivé, mais je pense pas du tout que c'est parce que je suis une fille. Par contre, effectivement, j'ai pas eu une carrière extraordinaire, et ça, je pense que ça vient plus de barrières internes, c'est-à-dire que je me définis pas uniquement par rapport à mon boulot. J'ai pas mis ma fierté dans le fait de devenir prof tôt ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, c'est pas arrivé, mais alors peut-être que c'est parce que je suis une femme que je ressentais moins l'urgence de la reconnaissance de mes pairs en faisant des tas de choses extraordinaires d'un point de vue professionnel, c'est pas impossible, mais ça vient de moi, ça vient pas de l'extérieur. Je me suis jamais senti ostracisée de l'extérieur parce que j'étais une femme. Mais je pense quand même qu'il y a du travail à faire, c'est-à-dire que cette barrière intérieure, le fameux plafond de verre, comme on dit, je pense qu'il est essentiellement intérieur chez beaucoup de femmes, et ça veut sûrement dire qu'il y a du boulot à faire, chez moi la première. On va y travailler.